La dernière fois que j'ai prêché, c'était à la fin de Libération 21. Et j'avais parlé que le Seigneur nous libérait de quatre choses. Et c'était les quatre points de mon message. C'était que Jésus nous libère du salaire du péché, dans le sens qu'on sait que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus nous sauve, hein, nous libère de la mort, du salaire du péché. Jésus nous libère de la puissance du péché, sans que le péché n'ait plus de puissance sur nous, parce que Jésus, dans sa grâce, nous a transformés. Et Jésus nous libère aussi du fardeau du légalisme, pas besoin de faire des choses pour plaire à Dieu, c'est de se remettre à Dieu et lui faire des choses à travers nous. Et Jésus nous a libérés aussi de l'obligation de que tout aille bien pour être heureux, parce qu'on peut être heureux même si on a des épreuves. J'aimerais revenir sur le deuxième point. Jésus nous libère de la puissance du péché, en sens qu'on est libéré de la puissance du péché, mais on n'est pas libéré de la présence du péché. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être vous avez encore quelques péchés dans votre vie, quelques mauvaises intentions, quelques orgueils. Le péché est encore là, présent, et on a à lutter contre le péché. Et j'ai aimé le chant de François tantôt, son premier chant, « La victoire est en Christ ». Si tu veux du péché le pouvoir, vaincre le péché, la puissance est en Christ, la puissance est dans le sang de Christ, dans sa mort sur la croix. Donc la puissance, elle est là. Okay? Et nous lisons dans Hébreux chapitre 12 que l'auteur nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc le péché nous enveloppe, pouf, il n'y a rien à faire. Hein? Pour être pécheur, on n'a pas besoin de se forcer. Hein? On a juste à se laisser aller, se laisser envelopper, puis le péché... C'est fait, c'est consommé. C'est... Donc, demandons au Seigneur qu'il nous montre. J'ai ici, c'est mon texte ce matin. C'est pas mon texte, c'est la parole de Dieu, c'est le texte du Seigneur. Dans Romains chapitre 6, versets 10 à 14. Et vous voyez que j'ai mis en jaune cinq verbes qui sont dans l'impératif, qui finissent par EZ. Et il y en a deux positifs, non, trois positifs, puis deux négatifs. Si on lit, on dit « Regardez-vous comme mort au péché, n'obéissez pas, négatif, ne livrez pas vos membres, donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres. » Donc, cinq impératifs qu'on va regarder ce matin. Et le même texte, vous voyez, c'est le même texte, je vais changer le jaune. Ah, maintenant j'ai voulu mettre le texte genre de sandwich, OK? Les mêmes... impératifs sont là, mais en haut et en bas, il y a la puissance pour le faire. Donc, on voit que pour être capable d'obéir à Jésus, vaincre le péché, il faut premièrement, verset 10, et à la fin, on a le verset 14. Verset 10, il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, il est ressuscité. Donc, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent la victoire. Et si on voit en bas, verset 14, on dit qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce nous transforme. Donc, qu'est-ce qu'il y a au début et à la fin? C'est la solution. Et Jésus ne nous laisse jamais seuls. Lorsqu'il donne un ordre, un commandement, il nous donne le pouvoir de le faire. Et ça forme un tout. C'est sûr que l'analogie est un peu plate là, avec le sandwich, là, mais si vous avez un sandwich dans votre boîte à lunch, deux tranches de pain là, puis le beurre de pinot à côté ou le jambon à côté, ça se mange mal. Hein? Mais si c'est tout dans le même, ça fait un tout, ça va bien ensemble. Et chaque verset ne doit pas être pris hors contexte, mais dans son contexte, pour qu'au maximum, on connaisse vraiment qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Si vous voulez, on va aller dans un mot de prière avant d'aller plus loin. Notre grand Dieu, je ne me sens pas vraiment à la hauteur d'aborder ta parole, parce que ta parole est tellement puissante, tellement pénétrante, tellement profonde, inspiré. Et Seigneur, nous, on va regarder ça, je vais essayer d'expliquer ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et notre Dieu, je te demande de m'aider, de nous donner de la clarté dans les propos et de suppléer à ce qui manque, Seigneur, à ma condition humaine, d'arriver avec ton esprit et de m'inspirer, d'inspirer mes frères et sœurs, de nous parler. Et fait que ce soit ta parole, Seigneur, qui puisse rester dans nos cœurs et nous aider à vaincre le péché, nous aider à nous rapprocher de toi, nous aider à te connaître. Et notre Dieu, on a tellement besoin de toi. On ne te prie pas pour la forme. Mais Seigneur, on est comme des quêteux. Oui, on a besoin de toi, Seigneur. car sans toi, on ne peut rien faire. Et on te demande ces choses-là comme si c'est Jésus lui-même qui les demandait. Amen. Maintenant, on prend le même texte, mais vu que c'est petit un peu, je vais y aller rapetisser, là. Je vais aller trois versets pour ici. On y va avec le verset 10. Donc, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Et ici, on a le « il », on a quatre fois « il ». Remplaçons les « il » par la personne qui est derrière ça, c'est Jésus. Hein? Donc, car Jésus est mort, c'est pour le péché que Jésus est mort, une fois pour toutes, il est revenu, ou Jésus est revenu à la vie, et c'est pour Dieu que Jésus vit. Donc, c'est Jésus qui est derrière ça. Et on voit que c'est pour le péché qu'il est mort. Le péché de qui? Le péché de façon générale. Hein? Mais s'il n'y avait pas d'humain sur la terre, y aurait-il du péché? Si on n'était pas là, il n'y aurait pas de péché. Donc, Jésus est mort pour le péché, on peut mettre mon péché. Hein? Le péché n'existe pas sans être humain sur la terre. Donc, Jésus est mort pour mon péché. Et Dieu n'a pas de plan en cinq étapes pour qu'on ait la victoire sur le péché. C'est sûr qu'il y a des impératifs, comme j'ai mentionné tantôt, mais le plan de Dieu pour la victoire sur le péché, il n'y a pas de recette magique. La solution, c'est Jésus. Jésus est la solution pour le salut. Jésus est la solution pour la victoire sur le péché. Et ce qui nous donne la force d'obéir, c'est sur la base de ce que Jésus a accompli, qui est mort, et c'est pour le péché qui est mort, afin qu'on ait la victoire. Parce que Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité, et on a la victoire à cause de cela. Ensuite, le verset 11, « Ainsi vous-même. » Donc là, le verset 10, c'est plutôt, je dirais, général, qu'est-ce que Jésus a fait. Mais au verset 11, hop, là, il retourne le projecteur vers nous. Hop, à votre tour maintenant, vous-même. Ah oui, nous, OK, nous-mêmes. Et quand il met « ainsi », ça veut dire qu'il y a un rapport avec ce qu'il y avait avant. Hein? Donc, en conséquence, par conséquent, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, Jésus est mort, ressuscité. Moi aussi, je dois me regarder comme mort et comme ressuscité à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, c'est une suite logique. Dans mon union avec Jésus, je suis mort et ressuscité. Je lui ai donné ma vie, ma vieille vie, qui est morte à la croix pour porter mes péchés. Et il m'a donné une résurrection, une nouvelle vie qui est sa vie à lui. La nouvelle naissance qui est vraiment réelle et qui n'est pas quelque chose d'autosuggestion. Hein. Quand on vit la nouvelle naissance, on sait c'est quoi. Et j'en ai parlé la dernière fois, le verbe « regardez-vous ». Ici, c'est un verbe, un terme qui est plutôt comptable. Considérez-vous, regardez-vous, c'est un terme qui est vraiment fort. C'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, que vous êtes mort au péché, que vous êtes ressuscité. Non. Regardez-vous mort au péché, regardez-vous vivant. C'est vraiment un terme comptable comme 2 et 2 font 4. C'est pas, on peut pas passer à côté. Supposément, si quelqu'un très riche met 1 million de dollars dans mon compte de banque. Il va dire, maintenant, Yvan, tu peux te regarder comme millionnaire. Voyons, tu peux pas, oui, millionnaire. Voyons. Oui. Pas millionnaire, regarde dans ton compte. Regarde mon compte de banque, wow, ces chiffres. Ben, je suis millionnaire. Je le réalise pas, mais au niveau des chiffres, au niveau des faits, au niveau de la comptabilité, je suis millionnaire. Et des fois, on réalise pas toujours qu'est-ce qu'on est en Jésus-Christ, mais pratiquement comptable, on n'y passe pas à côté. On est vraiment mort et ressuscité avec lui dans une nouvelle vie. Comme 2 et 2 font 4. Et on peut avoir de la difficulté à croire qu'on est vraiment ressuscité avec Jésus parce qu'on a toujours la lutte contre le péché. Souvent, Jésus utilise cette lutte-là pour nous rapprocher de lui, pour nous briser. Mais comme croyant, je dois comprendre la réalité de ma nouvelle identité en Jésus. Excusez. Ce n'est pas du nez, c'est juste un rhume. Donc, en Jésus, j'ai une nouvelle identité. Il faut que je comprenne que je ne suis plus ce que j'étais avant. Je suis complètement transformé. Je ne suis pas un pécheur remodelé, mais un saint recréé. Et le salut qu'on a en Jésus, ce n'est pas juste comme mettre de la peinture sur la rouille. Hein, j'ai déjà eu des voitures, des minounes, et quand c'était rouillé, je grattais la rouille, je mettais de la peinture, mais je ne grattais jamais assez, parce que c'était tellement profond. Puis ça prenait 6 mois, 1 an, ouais, tu voyais la rouille qui ressortait. Donc, ce n'est pas ça que Jésus a fait. C'est pas... Il a enlevé complètement la rouille de notre cœur et il a mis une couche de peinture qui est la vie de Jésus et c'est garanti à vie, même garanti à vie éternelle. Donc, il faut que je comprenne que même si je lutte avec le péché, je ne suis plus esclave du péché. Quelqu'un me disait à un moment donné, « Ah, je pense que je ne suis pas chrétien, je vois tellement de péchés dans ma vie. » Ah, bon signe, parce que si tu ne les vois pas, tu n'es pas chrétien. C'est le fait que tu sois chrétien, que Jésus, son esprit, met la lumière dans ton cœur pour te montrer tes péchés, que tu les confesses, tu les abandonnes. Mais si tu ne les vois pas, si je n'ai aucun péché dans ma vie, puis je vous dis que je n'en ai pas, puis je suis convaincu, vous demandez si l'Esprit de Dieu est en moi. Donc, ici, on voit la fin du verset 11, « Vivant pour Dieu en Jésus-Christ ». Le mot « en » ici est important. Dans la personne de Jésus, c'est une union réelle et irréfutable avec la personne de Jésus et on fait un avec lui. C'est comme une union, supposément un mariage. Un homme et une femme qui se marient, il y a une union et nous faisons un. Et c'est la même chose avec Jésus. C'est relationnel avec Jésus. C'est pas juste de loin, flou, mais c'est vraiment concret, relationnel. Et est-ce que je suis vraiment conscient de cette union-là avec Jésus? Est-ce que je goûte vraiment à cette union-là, à la douceur de ça, pas toujours. Mais quand je le goûte, c'est vraiment merveilleux. Donc, en Jésus-Christ, en lui, c'est aussi que je vois les choses comme il les voit. Supposément, vous êtes en moi. OK? Ça se peut pas, là. Mais supposément, vous réussissez à rentrer dans moi. Là, vous allez voir comme je... Vous allez comprendre les choses comme je les comprends. Vous allez avoir ma mémoire. Vous allez être comme moi. Vous allez peut-être avoir le cerveau un petit peu plus lent, mais vous allez quand même comprendre comme moi je comprends les choses. Vous êtes en moi. Si je suis en Jésus, je vais comprendre les choses comme lui les comprend plus facilement. Je vais avoir une nouvelle perspective parce que je suis dans la personne de Jésus. Je ne suis plus centré sur moi, là. Je suis dans la personne de Jésus. Lui m'aide par son esprit. Il m'aide à comprendre vraiment les choses qui sont de Dieu. Okay? Et je vois les choses à partir de lui. Je vois les choses à partir de sa pensée. Il me communique sa pensée par l'Esprit Saint. Je comprends mieux sa parole et je comprends mieux pourquoi je suis éprouvé aussi. Oh, ça, c'est moins drôle. Donc, Jésus nous éprouve même s'il nous aime. Et je vais en parler un petit peu. Donc, parfois ou souvent, Dieu permet des épreuves pour nous apprendre que lui seul est suffisant. J'ai ici un... de Larry Crabb, qui est un thérapeute, auteur chrétien. Il dit, « Vous ne saurez peut-être jamais que Jésus est tout ce qui vous suffit jusqu'au jour où il devient tout ce que vous avez. Ah. » Dieu peut nous enlever plein de choses et pour nous faire réaliser que le plus important, c'est lui. Donc, il dit, « On ne réalisera jamais que Jésus est suffisant, qu'il est tout, jusqu'à ce qu'il nous reste juste Jésus. » Et un jour, il va nous rester juste ça, hein? Quand on va être sur notre lit de mort. Il y a un cantique qui faisait allusion à ça tantôt, « Mon dernier souffle » ou « Mes derniers moments ». Donc, Dieu permet des épreuves pour nous rapprocher de lui. Je vous ai déjà parlé de la maladie de Ménière. Pas Ménière, Ménière, c'est ça que j'ai depuis quelques années. Et ça a commencé, j'étais en train de construire, poser du soffit dans mon abri d'auto. Et ça a commencé à tourner. Et c'est pas là que j'ai descendu de l'escabeau avant de tomber, là. Maladie de Ménière, c'est comme l'accumulation de liquide dans l'oreille interne qui fait qu'on perd l'équilibre. Et c'est pas labyrinthite. Labyrinthite, c'est des cristaux qui se déplacent, là. On les replace, puis ça revient un peu. Ma maladie de Ménière est contrôlée. Là, j'ai pas eu de crise depuis 5 ans. sachez que je prenne un médicament, un diurétique qui enlève l'eau. Pas que j'ai une tête d'eau, là, pas dans le cerveau, mais dans l'oreille. Qui enlève l'eau dans l'oreille et qui draine et ça empêche des récidives. Donc, j'en ai pas eu depuis 5 ans. Mais quand ça m'est arrivé, et il y a eu 5 ou 6 crises, une période de 6 mois à peu près, dans une, j'étais couché toute la journée, pas capable, j'étais comme quelqu'un qui était en boisson, là. Si je me levais pour aller aux toilettes, je vomissais en même temps. Et quand j'étais couché, il ne fallait pas m'ouvrir les yeux parce que là, le mur de la chambre se promenait comme ça, ça tournait. Fait que la seule position, c'était couché, les yeux fermés. Et là, je me disais, waouh, il ne reste plus rien, là. Si ça reste comme ça, c'est... Heureusement que Jésus est là. Jésus, il y a juste toi qui reste. Tout peut être enlevé. Mais je m'accrochais à Jésus. Jésus, t'es là. Ah! Donc, tout était... Je risquais de ne pas revenir. Heureusement, après une journée, c'est revenu. Mais, vous pouvez m'imaginer. Puis là, je me disais, un jour, ben, ça va vraiment être ça. Hein? Je vais sur mon lit de mort, puis il ne restera plus rien. On dit des fois, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, donc tous nos biens ne suivront pas, donc je n'aurai plus rien. Et j'ai réalisé la fragilité de la vie. Mais j'avais le plus important. Moi, je n'avais pas le contrôle, zéro contrôle sur la situation, mais Jésus l'avait. Oh! C'est ça qui est important, que Jésus a le contrôle, c'est lui qui nous aime d'un amour infini. Il a le contrôle, il est tout-puissant, il permet ça, il veut me rapprocher de lui. Amen! Et il m'a fait réaliser qu'il ne fallait rien tenir pour acquis. On doit avoir bien de projets, oui, on doit avoir des projets, il faut construire, il faut aider, il faut planifier, mais on ne sait jamais ce que nous réserve demain. Et un jour, mon corps va me laisser tomber. À moins que le Seigneur revienne avant. C'est peut-être mes dentiers qui vont rester là. Mais un jour, mon corps va me laisser tomber et ce qui va me rester, ça va être Jésus. Donc, c'est un grand privilège de suivre Jésus. Et ça, ça donne un sens à la souffrance. On ne souffre pas en vain. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, on m'avait demandé d'aller voir une madame, une chrétienne de notre église, une chrétienne fidèle depuis nombreuses années, qui était mourante. Et ce n'était pas une question de semaine, c'était une question d'heure avant qu'elle décède. Là. Et quand je suis arrivé auprès d'elle, j'étais avec mon épouse, Angelaine, je disais à la madame, je suis jaloux de vous. Parce que vous, là, dans pas grand temps, là, vous allez voir Jésus. Moi, je ne sais pas quand... Là, hey, imaginez, là, vous, là, vous êtes sur le bord de voir Jésus, quelque chose. Et Jésus, là, il n'a pas les bras croisés actuellement. Jésus a les bras ouverts actuellement. Il vous voit, il vous attend. Wow! Et puis là, je lui ai dit, hey, vous devez être heureuse d'avoir donné votre vie à Jésus il y a 30 ou 40 ans, ça faisait longtemps. Vous devez être heureuse d'avoir fait ce choix-là, parce que si vous n'avez pas fait ce choix-là, si vous ne l'avez pas suivi, aujourd'hui, vous ne seriez pas heureuse. Vous seriez troublée. Maintenant, vous allez vers qu'est-ce qu'il y a de mieux. Vous avez combattu le combat de la foi. Le Seigneur vous accueille. Il vous accueille, le Seigneur. Et c'est ça, la vraie vie. C'est ça, la vraie vie. Hein? Avec Jésus. Il y a 2 semaines, le 2 mai, Benoît avait prêché, avait dit dans son message que Christ devient accessible à travers un cœur brisé. Et le cœur est brisé lorsqu'on réalise notre péché, qu'on s'humilie. Et le cœur est brisé aussi lorsqu'on a des épreuves. Et on a une tendance naturelle à nous attacher aux choses de ce monde pour assurer notre bonheur et notre satisfaction. Et Dieu doit nous envoyer des épreuves pour nous réveiller. Mais des fois, on dirait qu'il en envoie trop, on n'a pas besoin d'autant. Il me semble que j'aurais compris pareil. OK? Et des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet des épreuves et des souffrances qui sont parfois humainement insupportables. Des souffrances qui sont aiguës. On dit, « Hey, Seigneur, ton enfant, tu m'aimes, mais pourquoi tu permets ça? » Et je ne comprends pas, c'est pas juste. Il y a des personnes, des fois, on dit, « Voyons, pourquoi ça arrive à lui ou à elle? » Il me semble, ça ne se peut pas. Et qu'est-ce qui est difficile, c'est que ça dure. dure, on prie, ça dure, Seigneur dit, ça continue. Oui, un petit soulagement va arriver, mais Seigneur, continue, ça dure. Et demande au Seigneur, pourquoi tu nous aimes et tu permets autant de souffrances? Et là, il m'a montré à quel point il nous veut près de lui. À quel point on doit être collé sur lui, à quel point on doit vivre avec lui. Et ça, on ne le réalise pas tant qu'on vit la routine habituelle. Quand on souffre, on s'en va vers Jésus. Et encore un petit peu de souffrance, on se rapproche un peu plus. Mais à un moment donné, c'est quasiment trop. Là, ça devient comme aigu. Seigneur, j'en peux plus. Je suis encore là. Oublie-moi pas. Et c'est l'apôtre Paul qui disait que les souffrances du moment présent vont produire un poids éternel de gloire. Il disait les légères afflictions. Pour lui, c'était pas compliqué. Il se faisait flageller, fouetter, puis tout ça, c'était des légères afflictions pour lui. Et je lisais aussi dans 1 Pierre, 1er épître de Pierre, chapitre 1, qui disait que les souffrances qu'on a, ça va produire la louange et de la gloire lorsque Jésus va revenir. Et Jésus, il veut nous donner ça, mais il y a un prix à payer. Et quand je réalise à quel point Jésus peut permettre qu'on souffre, c'est qu'il me montre à quel point il m'aime et il désire que je goûte à son amour. Je m'aime autant que ça, Jésus. Oui, je t'aime, mais c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Il désire que je sois intime avec lui et que lui, sa présence en moi soit concrète. Pas juste intellectuelle, concrète. Il veut mon plus grand besoin. Je ne réalise pas à quel point j'ai besoin de lui. Lui, il le sait. Il veut me le faire réaliser. Et si je veux vraiment aimer les autres, comme lui me le demande, bon, il faut que Jésus prenne toute la place dans ma vie. C'est lui la source de l'amour véritable et je ne peux pas porter les fruits de l'Esprit si Jésus n'est pas en nous par son Esprit Saint. Et ma relation avec lui a des répercussions éternelles que je ne connais pas suffisamment, mais qui sont véritables, des répercussions inimaginables et glorieuses qui m'attendent. Et le petit bout de vie que j'ai, là, 75 ans, 80 ans, 100 ans, c'est rien comparé à l'éternité. L'éternité. L'éternité, c'est rien. Une petite histoire réelle. Quand j'étais en Gaspésie, dans une petite assemblée, c'était un père, un colosse, et il aimait beaucoup son petit gars, il avait 4-5 ans. Et quand il passait à côté de son petit gars, il donnait une pichenote, tombe sur l'épaule, tombe. Juste pour dire, hey, je suis là, je t'ai vu, je t'aime. À un moment donné, le petit gars, il se met à pleurer. Ouais, puis il pleure. Son père, il dit, qu'est-ce que t'as là? Tu me fais mal! Le père, il ne se rendait pas compte, lui, il était fort, puis pour une pichenote, rien là. Le petit gars, le père, il dit, excuse-moi, je ne vais pas te faire mal, je fais ça pour te montrer que je t'aime. Le petit gars a répondu, « J'aimerais ça que tu m'aimes moins. » Et qu'est-ce que je demande à Jésus? Qu'est-ce que moi je demande à Jésus? J'aimerais ça que tu m'aimes moins. Je ne peux pas lui demander à Jésus de m'aimer moins. Jésus fait ça par amour quand je suis éprouvé. Donc, il y a plein de choses sur la terre qui attirent mon attention, mes désirs, mais par l'épreuve, Jésus nous réveille. Puis il nous fait voir les choses dans une autre perspective, dans la sienne. Et sa présence en moi est plus importante. C'est pour mon plus grand bien, puis ma vraie sécurité, elle me vient de lui. Et si Jésus m'aime, s'il est là, c'est suffisant. Excusez-moi. Et quand je réalise que Jésus est vraiment mort pour moi, qui m'a sauvé, qui me donne la vie éternelle, il m'a libéré du châtiment qui m'était réservé. Imaginez-vous ce qui m'attendait, là, si Jésus n'était pas venu. Ouh, perdition éternelle. Ça me touche, ça me transforme, ça me remplit d'amour. Et ça me donne le goût de lui obéir quand je vois qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Avez-vous déjà entendu parler du roman de Victor Hugo, Les Misérables? C'est pas nous autres, là, on n'est pas si misérables que ça. Dans leur temps, Hugo a écrit ça en 1862, les gens étaient vraiment... C'était difficile en France à ce moment-là, les gens étaient misérables. Et ça a inspiré son roman. Et dans son roman, qui a fait l'objet de films, de pièces de théâtre, de comédies musicales. Il y a une scène, c'est un bandit qui s'appelle Jean Valjean. Jean Valjean est un criminel endurci qui venait d'obtenir une libération conditionnelle. Il était dans un camp de travaux forcés en France et il avait fini de purger sa peine, mais ils l'ont libéré quand même sous condition, c'est que s'il faisait encore un autre mauvais coup, là, il rentrait en dedans, puis c'était peut-être à perpétuité. OK? Fait que, il est sorti de là, et il était dans la rue seul, tard le soir, il rencontre un prêtre. Le prêtre lui dit, t'es tout seul, t'as pas de place à aller? Il dit non. Il dit, viens chez nous, viens manger, puis couche chez nous. Fait qu'il a mangé chez le prêtre, il a couché là. Mais au milieu de la nuit, le prêtre a entendu des bruits. Gling, 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 il s'est levé, et il est allé voir ce qui se passait dans la cuisine. Ben, comme de fait, c'était le voleur Jean Valjean qui était en train de prendre toute l'argenterie, mettre ça dans une grosse poche et se sauver. Et quand Valjean a vu le prêtre, il a donné un bon coup de poing dans le visage, il l'a assommé, le prêtre est resté là, et Valjean s'est sauvé avec l'argenterie. Ensuite, sur les petites heures du matin, la police, les gendarmes sont arrivés chez le prêtre avec Jean Valjean, il l'avait pogné, avec toute l'argenterie. Et la police a dit, là, il nous dit que tu lui as donné l'argenterie. Mais il nous dit, nous, on ne le croit pas. Pourquoi tu aurais donné ça? Fait que là, le prêtre, il dit à Valjean, je ne suis pas content, je ne suis vraiment pas content avec toi, Valjean. Je t'avais tout donné, puis tu as oublié les chandeliers. Regarde, un beau chandelier ici qui vaut 2000 francs, tu ne l'as même pas pris. Fait que là, les gendarmes ont laissé Valjean, ils sont partis. Et quand ils se sont... Et là, le prêtre savait qui l'avait assommé, il savait qui avait volé l'argenterie, et Jean Valjean savait que le prêtre le savait aussi. Et quand les policiers ont été partis, le prêtre a dit à Valjean, « N'oublie pas ce que je viens de faire pour toi. » Ça fait penser à Jésus, hein? « N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Tu n'appartiens plus au mal maintenant. J'ai payé ta rançon. J'ai payé la rançon de ta haine et de ta crainte. » Donc, et qu'est-ce qu'il lui demandait? À cause de la compassion qu'il y a eu pour lui, la miséricorde, et qui était transformé. « N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Tu n'appartiens plus au mal. Maintenant, sois un homme transformé. » Et effectivement, dans le roman, Jean Valjean était un homme complètement transformé. Et ça nous parle de la miséricorde de Jésus. Il nous donne la victoire sur le péché, pas juste en nous pardonnant, mais son pardon, sa miséricorde est tellement grande que ça nous transforme. Et la victoire sur le péché, principalement, c'est dû à la transformation qui est produite en nous quand on voit ce que Jésus a fait pour nous, la grandeur de sa grâce. Et c'est ça, sa miséricorde pour nous, sa mort, ne nous donne pas seulement la vie éternelle, ne nous sauve pas seulement de l'enfer, mais fait de nous des nouvelles personnes transformées. Et si j'ai vraiment compris ce que Jésus a fait pour moi, je vais être une nouvelle personne transformée, je vais porter du fruit. Et l'expression « en Jésus-Christ », c'est une expression favorite de Paul, qui désigne les gens qui sont sauvés. Et il n'y a aucune religion qui est... dans le monde, qui donne cette certitude. Les musulmans ne disent pas qu'ils sont en Allah. Allah est loin, Allah est dur, peut-être qu'il va les accepter, peut-être que non. Donc, ils ne sont pas en Allah. Les bouddhistes ne sont pas en Bouddha non plus. Et nous, nous sommes en Jésus, qui est le créateur de l'univers. Wow! Nous sommes en lui. Quel privilège! Donc, être sauvé, c'est plus qu'être pardonné, c'est recevoir la vie de Dieu en moi. Et lorsqu'on devient chrétien, Christ entre réellement dans notre vie. Et l'apôtre Paul disait en plus, Christ est ma vie. Donc, c'est plus... Christ est dans ma vie, mais même c'est encore plus, il est ma vie. Il est mon tout, il est ma vie. Ma vie, c'est Jésus. Okay? Une autre citation ici de M. Steve McVeigh, dans son livre « Le règne de la grâce », il dit... Demeurer en Christ signifie simplement choisir de le laisser vivre à travers nous à chaque instant de notre vie. Donc, on a un choix à faire aussi, de le laisser vivre à travers nous. Comme je le dis des fois, la vie chrétienne, ce n'est pas moi qui la vis, c'est Christ qui la vit en moi. La puissance me vient de lui. Et on va revenir avec notre texte de tout à l'heure. Nous avons vu les versets 10, 11 et 12. Le verset 12, 11, on est rendu à 12. Que le péché, encore le péché, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne règne pas. Donc, le péché a été détrôné, mais il veut encore régner. Il veut qu'enlever Jésus sur le trône, il veut prendre toujours, toujours la place. Mais on n'est plus obligé de lui obéir. On n'est plus obligé, on n'est plus esclave du péché et le péché n'a pas d'affaire à régner sur nous. Tu n'as pas d'affaire à régner sur nous. Et le verbe ici, le commandement, c'est « n'obéissez pas à ses convoitises ». Donc, puisqu'il n'a pas d'affaire à régner sur vous, vous n'avez pas d'affaire à lui obéir au péché. Et une convoitise, on sait que c'est quelque chose qui est tentant. Tentant qui nous demande d'obéir. Et le diable, le péché, nous cache le prix à payer pour le péché. Je l'ai peut-être déjà dit. Si je vais dans un magasin et je vois une belle chemise, waouh, je serais beau là-dedans. C'est mieux, je veux dire, peut-être pas beau. Puis là, quand tu regardes le prix, ah ben non, on va y penser. Parce que c'est cher. Tu regardes le prix d'une auto, ouais, ben peut-être on va changer de modèle. Donc, lorsqu'on voit le prix à payer, on change. Et le diable cache toujours le prix à payer. Toujours, toujours. Et le prix à payer est cher. C'est après qu'on le voit. Et il n'y a pas de péché mignon. Des fois, oh, c'est une petite affaire, c'est mignon. Non, Jésus est mort pour tous les péchés, il n'y a pas de péché mignon. Et ici, il dit que le péché ne règne pas dans vos corps mortels. Le corps mortel, c'est-tu le vieil homme? Non, c'est notre corps en chair et en os et en plâtre qu'on a. Donc, c'est ça, notre corps mortel. Et tant qu'on va être dans ce corps-là, on va être sujet au péché. On est vulnérable au péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit des lettres sur l'inspiration du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous aider à avoir la victoire sur le péché. Ensuite, que le péché ne règne donc... Donc, ça veut dire en conséquence de tout ce qu'il y a eu en haut. OK, on est mort au péché, on est ressuscité en Jésus, on se regarde comme mort au péché. En conséquence, donc, le péché n'a pas d'affaire à régner en vous à cause de tout ce qu'il y avait en haut. Vous n'avez pas d'affaire à obéir non plus au péché. Okay? Et qu'est-ce qui nous donne cette puissance? C'est d'être en Jésus. Et de lui donner le contrôle de notre vie. On va voir un petit peu plus tard. Donc, je crois que c'est Benoît qui disait ça. Il disait, le péché est un symptôme. Un symptôme, c'est un effet secondaire de mon éloignement de Jésus. Et, tu sais, mon titre, c'était la victoire en Jésus, pour le péché. Mais dans le fond, est-ce qu'on doit chercher à vaincre le péché ou on doit chercher Jésus? Hein? Il y a des bonnes personnes qui luttent pas contre le péché. Donc, le but n'est pas nécessairement de focusser sur le péché, puis il faut que je te vainque. Donc, c'est de chercher Jésus, et le péché va prendre sa place, il va s'éloigner. Et plus je suis intime avec Jésus, plus je vais avoir cette victoire sur le péché. Donc, on y voit que on a fait verset 10, 11, 12, on y voit que la suite, le verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché. » comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne livrez pas. Ici, le terme « livrer », c'est pas comme faire livrer de la pizza. Okay? Livrer, c'est comme abandonner. On livre quelqu'un au bourreau. Le petit Larousse le définit comme remettre quelqu'un au pouvoir de. Donc, c'est de ne vous mettez pas au pouvoir du péché. OK? Donc, ne vous abandonnez pas. Ne permettez pas qu'il y ait une domination. Celui qui se livre se rend esclave de celui qui le prend. Et il y a une espèce de domination ici. Donc, n'acceptez pas que le péché domine sur vous. Parce que s'il domine sur vous, ben, vos membres vont devenir des instruments d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Vos membres vont servir à péché. Okay. Au contraire, la troisième ligne, là, donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, vous. Donc, c'est vraiment nous. C'est un acte volontaire. Hein? On n'a pas de gun sur la tempe. Donc, c'est volontaire. On se donne nous-mêmes à Jésus. Okay? Comme un sacrifice vivant. Et j'ai une autre citation de M. Steve McVeigh. Chaque fois que nous nous en remettons totalement à Christ pour qu'il manifeste sa vie à travers nous, nous connaissons la victoire sur le péché. C'est ça que je vous parlais justement matin, la victoire sur le péché. Donc, chaque fois qu'on s'en remet à Christ, et ça veut... Et moi, je dirais, bien, on a donné notre vie, on est sauvé, mais il faut revenir, c'est constant, reconsécration. Jésus, oui, je me remets à toi. Oups, à un moment donné, quand on le réalise, on s'éloigne. Jésus, je reviens à toi. Et c'est là qu'on a la victoire sur le péché. Il faut le chercher et il se laisse trouver parce qu'il nous aime. Donc ici, il y a le mot, il manifeste sa vie à travers nous. Donc ce n'est pas une obligation, pas par les chignons du cou, là, tu veux obéir. Non, c'est à travers nous qu'il nous donne le goût d'obéir, il nous donne la joie de le faire à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il y a une autre citation ici de Jean Calvin, un réformiste, réformateur. Donc, il dit, celui qui s'abandonne à Dieu ne sera jamais abandonné par Dieu. C'est-tu beau, ça? On s'abandonne à Dieu dans ses bras d'amour, il ne sera jamais abandonné par Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Donc, on serait fou de ne pas s'abandonner à lui. Hein? On était fou de résister. Une autre citation encore qui va dans le même sens de Simone Weil. Nous ne connaissons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous connaissons celui qui nous le réserve. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on a une relation intime, on connaît la personne qui nous réserve un avenir, qui sait qu'est-ce qui va se passer dans nos vies, qui a un plan pour notre vie. L'important, ce n'est pas de savoir ce qui s'en vient, c'est de savoir que Jésus est là avec nous et que Jésus est au contrôle, qui est souverain. C'est merveilleux. On va revenir à notre texte. Le dernier verbe, offrez à Dieu vos membres. Donc, c'est le contraire de, on a dit, ne pas livrer nos membres au péché, mais là, il demande de les offrir à Dieu. Donc, la nature humaine a horreur du vide. Donc, on dit non au péché, mais il faut dire oui à Dieu. Okay? C'est lui qui va nous combler. Donc, offrez vos membres à Dieu, qui vont devenir des instruments de justice, des instruments pour faire le bien. Mais il faut d'abord lui avoir offert notre cœur, notre volonté, et notre corps va suivre nos membres. Et c'est quoi nos membres? Nos bras, nos jambes, notre langue. Hein? La langue, l'apôtre Jacques en parle beaucoup dans son épître. La langue est un petit membre qui peut faire de grandes choses, qui peut se vanter aussi, qui peut louer Dieu, et qui peut médire d'un frère ou d'une sœur. Donc, la langue, est-ce qu'on la donne au pouvoir du péché ou on l'offre à Dieu? Et il y a d'autres membres. Quoi? Les oreilles et les yeux ne sont pas des membres, mais ils font partie du corps. Comme il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Lorsqu'on donne nous-mêmes à Dieu, tout notre corps lui appartient. Donc, nos oreilles, qu'est-ce qu'on entend? Nos yeux, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on se laisse regarder? Quel genre de lecture on fait, quel genre d'émission de télévision on regarde, qu'est-ce qu'on regarde sur Internet, il y a tellement de choses très bonnes. Mais sur Internet, il y a le meilleur et il y a le pire. Donc, je vous encourage à regarder le meilleur. Donc, à cause de tout ce qu'on vient de lire, il y a la conséquence, verset 14, car, on pourrait dire en conséquence, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ah, amen. Que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, le corps est le résultat de ce qui précède. Et la version sommaire dit, le péché ne sera plus votre maître. Si on veut être maître, avoir le contrôle. On laisse le péché avoir le contrôle sur nous. Non, si on comprend vraiment la grâce de Jésus pour nous, le péché n'aura plus de pouvoir. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et le fait qu'on soit sous la grâce, ça nous permet de vaincre le péché. Pourquoi? Parce que la loi, elle dirige, elle nous oblige, elle dit fais ça. Alors que la grâce de Jésus, elle nous transforme. Elle fait de nous des nouvelles personnes. une nouvelle créature, et c'est là qu'est le pouvoir de la grâce. Donc, la loi ordonne, alors que la grâce donne la puissance pour obéir. Et la loi ne peut que corriger, restreindre. La loi est bonne, mais ça prend la grâce pour être capable de la suivre. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un monsieur, une histoire vraie, une histoire de couple, M. J.D. Greer, dans son livre qui s'appelle « L'Évangile ». Lui, il dit « Mon incapacité à vraiment comprendre la grâce dans l'Évangile a presque détruit mon couple. » Avant son mariage, lui et son épouse, il y avait zéro chicane. Pouvez-vous croire ça? Il n'y avait jamais eu de chicane. Et j'ai déjà vu ça dans les cours de préparation au mariage où la fille dit « Ah, lui, là, je ne pensais pas qu'il communiquait comme ça. On se comprend, il me comprend tout. Puis, ah, ça me dépasse, c'est lui que je vais marier. 6 mois après, il ne me comprend pas. Puis lui, il ne comprend pas pourquoi elle ne s'en a pas comprise. Pourtant, il fait tout pour qu'elle comprenne, mais elle ne comprend pas. Ah, ça arrive, ce n'est pas toujours le cas. Mais le monsieur en question, je vous parle, pas de conflit pendant leur fréquentation, mais dans les premiers 6 mois de leur mariage, il dit, on s'est rattrapé. Rattrapé vite. Il dit, malgré tous les efforts qu'on a faits, même dans les premières années, on n'a pas réussi à améliorer notre situation. On est devenu découragé. On voulait pratiquement se séparer. Puis on a dit, on va plier sur notre orgueil. On va aller consulter un conseiller. Lui, il était pasteur dans une église florissante. Il y a beaucoup de ça allait très, très bien. Mais son couple, c'était désolation totale. Donc, ils ont été voir le conseiller chrétien. Le conseiller, écoutez, habituellement, c'est lui qui est coupable, c'est elle, c'est elle. Chacun accuse l'autre. Hein? Nous, on voit le péché de l'autre voit le nôtre. Et le conseiller leur a lu 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, qui dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Et l'apôtre Paul écrit ça, j'ai souligné, donc je suis le premier. Et là, le conseiller leur a demandé, est-ce que Paul exagère? Il y en a un peu, Paul n'est pas le premier des pécheurs. Hein, il n'a pas dit ça, là. Il a juste dit, est-ce que Paul exagère? Et le mari, qui était pasteur, connaissait sa Bible, il savait que la Bible, croyait à l'autorité de la Bible, il dit, Paul ne peut pas mentir, la Bible dit vrai. Si Paul dit qu'il est le premier des pécheurs, il est le premier des pécheurs. Mais d'un autre côté, il y en a des bien pires que lui. Imaginez Judas Iscariote qui a livré Jésus. Imaginez Néron qui persécute les chrétiens, qui même les attache, il fait des flambeaux humains dans son jardin, il fait brûler. Il y en a des pires. Ça fait que le mari dit, je sais pas. Ouais, il a bien fait de répondre ça. Je sais pas. Il fait de niaiseux. Mais dans le fond, c'est dur à dire, hein, parce que Paul est le pire des pécheurs. Et là, le conseiller, il a dit, je vais vous dire, Paul, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai pour lui, parce que lui, il voit son cœur. Il voit son cœur à lui, puis il voit que dans son cœur, il est archi-pécheur. Donc, devant Dieu, il se voit comme le plus grand des pécheurs. Il ne peut pas dire lui plus pécheur que moi, non. Devant Dieu, c'est lui, son cœur, qui voit, il se voit comme le premier des pécheurs. Même si, en théorie, il y en a qui ont fait des choses pires que lui. Okay? Et le conseiller, il a dit au mari et à la femme, « Votre problème, c'est que chacun considère l'autre comme le premier des pécheurs. Vous voyez les péchés de l'autre, vous voyez clairement. Toi, là, mon homme, tu vois clairement le péché de ta femme, et madame, vous voyez clairement le péché de votre mari. Si vous auriez vraiment compris à quel point vous êtes pécheur et votre profond besoin de grâce, vous auriez naturellement démontré la grâce l'un envers l'autre. Votre problème, c'est que vous n'avez pas vraiment réalisé la grâce de Jésus pour vous. Et le gars était pasteur, il y avait une église qui était en pleine expansion. Et le mari met ça dans son livre, il dit, ces prochains mots ont eu l'effet d'une bombe dans mon cœur. Et si je vais les écrire, il dit, donc ça c'est le conseiller qui parle au couple. Quand on croit vraiment à l'Évangile, on se voit d'abord comme pécheur, puis seulement ensuite comme victime du péché. C'est sûr que chacun était victime du péché de l'autre. Mais il se voit premièrement comme pécheur. C'est le problème dans votre relation de couple. Vous comprenez ni l'un ni l'autre à quel point le pardon que vous avez reçu est grand. Parce que vous n'avez pas vraiment goûté la grâce, vous n'avez pas de grâce envers l'autre. Vous devez revenir à l'Évangile. Vous n'avez pas goûté la grâce, donc vous n'êtes pas capable de l'exercer. Et tout à l'heure, c'est drôle, le dicte pour les enfants, c'était celui qui avait pardonné beaucoup et, à son serviteur. Et son serviteur s'est retourné et il a jeté en prison quelqu'un qui lui devait quelques dollars. Donc, il n'a pas pardonné parce qu'il n'avait pas vraiment compris la grâce. Et comme il dit, lorsqu'on comprend vraiment la grâce de Jésus, on est capable de pardonner. Mais naturellement, dans notre chair, on est porté à voir les péchés de l'autre. Oh, une autre histoire d'un pasteur qui rencontrait un couple de l'hiver. Fait que là, il arrive chez eux, enlève les bottes, enlève le manteau, met ça, c'est super, bon, on va s'asseoir dans le salon, prend un café. Fait que là, le couple, on parlait de leurs problèmes, donc comme d'habitude, le gars accusait la femme accusait le gars, vraiment, là. À la fin de ça, le conseiller dit, bon, la semaine prochaine, je vais vous donner un devoir, chacun va écrire sur une feuille c'est quoi votre responsabilité dans votre problème de couple. C'est quoi que vous faites qui fait que ça ne marche pas? C'est quoi votre péché? Et si vous n'avez pas chacun votre feuille, ben il n'y aura pas de réunion. Parce que je ne peux pas rien faire. Tant que vous n'admettez pas vos responsabilités, je ne peux pas rien faire. C'est que la semaine d'après, le couple arrive, c'est l'hiver, les bottes, les manteaux, tout ça, hein, ça soit dans le salon. Le pasteur demande, puis vous faites vos devoirs. Il y en a un qui avait une belle feuille, il avait tout écrit, l'autre avait rien mis. Moi, j'ai rien à m'approcher. Et le pasteur a dit, ben là, je ne peux rien faire pour vous autres. On se rhabille et vous en allez. Ils sont rhabillés, ils sont partis. Je ne me souviens pas trop de l'histoire, mais je pense qu'ils ont fini par compléter cette feuille-là. Ils sont revenus. Mais tu vois, si on n'admet pas nos péchés, on ne va pas loin. Donc, on a vu ce matin les choses à faire et à ne pas faire pour avoir la victoire sur le péché. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Avoir la victoire sur le péché ou être intime avec Jésus? Souvent, on lutte contre le péché, mais on ne cherche pas Jésus. Donc, le plus important, c'est de rechercher à connaître Jésus davantage. Le péché, on va avoir la victoire plus naturellement. Et parce qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas de misère avec le péché. Comme moi, quand je n'étais pas chrétien, je ne luttais pas avec la colère. Je ne suis pas de nature colérique. Donc, je suis un super de bon gars. Il y a des chrétiens qui se mettent en colère, puis moi, je ne me mets pas en colère. Okay? Donc, on peut avoir la victoire sur le péché sans Jésus. Il y en a des bonnes personnes. Mais, on en enfer. Parce que c'est Jésus qui peut... Parce qu'il n'y a jamais personne qui est complètement parfait. On est tous des orgueilleux dans le fond de nous-mêmes. Et c'est le péché le plus grand. Et donc, même si moi, j'étais un bon gars, je ne me mettais pas en colère, j'étais orgueilleux et je le suis encore. Qu'est-ce que je demande au Seigneur? Je demande au Seigneur de m'enlever l'orgueil, puis il n'est pas capable. Mais ce que j'ai demandé, j'ai dit, montre-moi-le. Ah, ça, il me le montre. Merci, Seigneur. Et quand il me le montre, ça m'humilie et ça me brille, ça me rapproche de lui. Ah, bon, ça sert au moins à ça, l'orgueil, de m'humilier. Okay? Donc, cherchons Jésus et c'est lui qui va nous aider à vaincre le péché, il va nous le révéler. Et Jésus utilise souvent mon péché, comme je disais, pour m'humilier, me montrer que je ne peux pas rien faire de moi-même, que j'ai besoin de lui. Et Jésus aime ça quand je lui dis, à l'aide, je ne suis plus capable. Je ne suis pas capable de vaincre ce péché-là. Je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Si je réussis à vaincre le péché de moi-même, je vais me péter les bretelles. Je vais arriver au ciel, regarde Jésus, ce péché-là, lui, je l'ai eu. Mais non, Jésus ne veut pas qu'au ciel, il y ait un dixième d'un million d'orgueil, de pourcentage, rien. Et je reviens qu'un verset que j'ai déjà amené souvent. Jésus demande de demeurer. Jésus ici qui parle, c'est pour l'apôtre Paul, il dit, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, dans Jean 15, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, porter du fruit, c'est obéir à Jésus, faire des bonnes œuvres. Et on ne peut pas rien faire si on ne demeure pas en lui. Pourquoi le sarment n'apporte pas de fruit? Parce que le sarment s'est détaché du cep, il n'y a plus de sève qui coule dedans. Et une branche qui n'a plus de sève dedans, ça meurt, ça ne porte pas de fruit. Peut-être un pommier, hein, vous coupez la sève, il ne pousse plus rien. Ici, en Israël, il y avait beaucoup de vignes, donc il étudie cet exemple-là. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Ça, c'est un arbre, un mélèze. J'ai une terre à bois, et quand je l'ai acheté il y a une douzaine d'années, bon, je fais toujours le tour hein, avant d'acheter ça, comme une maison, et il y avait des beaux mélèzes qui étaient comme ça, et il y avait des mélèzes qui étaient comme ça. Ce n'était pas un feu de forêt. Et j'ai demandé au propriétaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'il y en a qui sont sains, qui sont super beaux, puis d'autres sont séchés debout. Je ne savais pas. Ah. C'est bon pour le bois de chauffage, un peu comme le cèpe, les serments qui ne portent pas de fruits sont enlevés. Donc, c'était juste bon pour le bois de chauffage, pas d'autre chose. Et quelques mois ou l'année d'après, j'ai visité ma terre avec un technicien forestier pour avoir des conseils. Et il me dit, le problème avec tes mélèzes, c'est que il y a une petite bébite ou un petit ver, peut-être à 4 pieds du sol, qui mange l'écorce. Tu ne le vois pas, mais c'est pas en dedans. Mais on voit un petit peu, il y a des petits trous, là, comme il dit, c'est ces bébites-là qui mangent l'intérieur, ça coupe la sève ne monte plus dans l'arbre. Graduellement, ça prend quelques années, l'arbre il meurt. L'importance de la sève. Et c'est pas ça que je vous souhaite. C'est ça ici, qu'on soit un arbre verdoyant planté près des courants d'eau, hein, comme on a dans le psaume 1. Donc, peut-être que vous avez des conflits. Pas peut-être, vous avez des conflits. Peut-être dans votre couple, peut-être au travail, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents, peut-être avec un voisin. C'est toujours facile. Moi, ça va bien avec mes voisins, gloire à Dieu. Et l'autre, il est plus pécheur que vous, c'est de sa faute. Peut-être que quelqu'un extérieur dirait oui, lui est plus pécheur que lui. Mais on voit toujours l'autre, celui qui nous fait du mal, comme le plus pécheur. Et si on pense à Jésus et à l'exemple du pasteur tantôt qui voyait sa femme comme plus pécheresse que lui, moi, je vais me considérer comme le premier des pécheurs, premièrement. Et ensuite, oui, je suis une victime du péché de l'autre, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi, il a tellement fait. Si je réalise que je vois mon cœur, je vois que je suis le premier des pécheurs, je vois que Jésus a payé pour ça, de sa vie, afin de me sauver pour la perdition éternelle, c'est beaucoup. Sa grâce, elle me transforme, elle me rend capable de pardonner. Et je vois les choses avec les yeux de Jésus dans une autre perspective. Jésus est mort à cause de mon péché. La personne avec qui vous êtes en conflit, est-ce que vous allez être obligé de mourir pour son péché? Hop, c'est moins exigeant que Jésus, hein? Jésus, lui, à cause de nos péchés, il a été obligé de mourir. Donc, moi, je ne serai jamais obligé de mourir pour le péché d'un autre. Ça n'ira jamais jusqu'à là. Donc, Jésus, il va toujours faire plus que nous. Il fait plus que nous. Donc, si nous revenons à Jésus, ben, on tombe face contre terre. On voit sa grandeur, on voit ce qu'il a fait pour nous. Comme Isaïe disait, « Pauvre de moi, misérable que je suis un homme aux lèvres impures. » Je voyais pécheur, mais pas longtemps après, un ange a apporté un tison sur sa bouche pour le purifier. C'était la préfiguration du salut en Jésus. Donc, dernier point, Christ est ma vie. C'est ça que je veux que vous gardiez ce matin. On a commencé avec comment avoir la victoire sur le péché, mais dans le fond, c'est Christ est ma vie. C'est ça qui est plus important. Et il va nous la donner, la victoire, par après. Comme effet secondaire désirable. Donc, je vous invite, je nous invite à nous rapprocher de Jésus et à le laisser vivre à travers vous. Et comme la sève doit monter dans l'arbre pour le nourrir, il fait grandir, il faut que la sève de Jésus, sa vie, coule en nous, qu'elle puisse couler en nous. Donc, puissions-nous toujours être de plus en plus intimes avec Jésus. Jésus, c'est une personne. C'est un peu drôle parce qu'une personne avec qui on peut communiquer et c'est en même temps le créateur de l'univers. Mais c'est lié les deux. Et Jésus veut vraiment vous rapprocher de lui. Autant on doit s'humilier devant lui, autant on peut avoir une relation intime avec lui, très près. Donc, lui-même soupire après une relation intime avec nous. Donc, quand je le connais, je réalise combien il m'aime, et plus je le connais, je vois combien il m'aime, plus il est désirable. François veut avancer, j'ai oublié de le dire pour le dernier chant. Ah, il est déjà là. Prions. Notre grand Dieu, quand je réalise ta grâce pour moi, je suis estomaqué, émerveillé, renversé. Et Seigneur, rends-moi de plus en plus conscient de ce que tu as fait pour moi. Et merci parce que cela me transforme, cela m'aide à t'aimer, à t'apprécier. Merci Jésus de m'aimer comme tu m'aimes. Et merci pour les brisements. Je dois même dire merci pour les épreuves, Seigneur, parce que toi, tu sais pourquoi tu les envoies, même si des fois ça paraît insupportable humainement. Mais Seigneur, tu sais ce que tu fais et je veux m'en remettre à toi. Et toi, tu vois dans l'éternité. Ô notre grand Dieu, crée en nous une soif de te connaître. Comme dit le psalmiste, comme une biche soupire après des courants d'eau, je soupire après toi, ô Dieu. Et puissions-nous, notre Dieu, soupirer après toi et tu te laisses connaître. Et Seigneur, on ne te connaîtra jamais suffisamment. Même l'apôtre Paul disait ça, cherchait à te connaître de plus en plus. Seigneur, mais Seigneur, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Et Seigneur, puissions-nous être trouvés en train de te chercher lorsque tu vas revenir. Et Seigneur, merci de nous accueillir les bras ouverts, soit à notre mort ou soit à ton retour glorieux pour venir nous chercher. Et on te demande toutes ces choses-là comme si c'est Jésus lui-même qui demandait.